vous reprendrez bien un peu de science-fiction. Aujourd'hui, c'est fiction. Le faucheur.
Société nouvelle de robotique. Fondée en 1974, la SNR, Société Nouvelle de Robotique, est présente sur tous les mondes connus et à toutes les époques pour vous apporter son expertise en matière robotique. Notre domaine de compétence va de la conception et fabrication de robots avec ou sans intelligence artificielle à la récupération de modèles robotiques complexes en symbiose avec leur zone d'opération. Nous sommes également habilités dans la contre-mesure active de haute intensité pour vous aider à gérer les interactions inopinées et poussées que vous pourriez rencontrer avec matériel robotique autonome. Notre réputation dans le domaine du traçage logiciel, spatial et historique n'est plus à faire. Nous sommes particulièrement attentifs aux besoins de nos clients afin de leur éviter une trop grande gêne dans leur parcours entrepreneurial robotique. Notre savoir-faire vous permettra d'anticiper et, si le besoin s'en fait sentir, de pallier à toute déconvenue. Nous serions très flattés de vous compter parmi nos clients et d'entreprendre un partenariat prolifique pour tous.
Saleté de capteur de CO2, pourquoi protéger son garde de cette manière? Je comprends pas. Comme si ça avait une valeur, ce genre de poubelle. Bon, pour la discrétion, c'est cramé. On va passer au gros moyen. Chiffre dorénavant marqué du sceau de l'infamie. La fameuse phrase du secrétaire général des Nations Unies, énoncée au cours d'un discours solennel pour les 10 ans de l'oblitération. Presque aussi fameuse que celle originelle prononcée par le président américain Roosevelt. La référence fut-elle involontaire? Le secrétaire n'a jamais répondu franchement. Toujours est-il que son discours fut émouvant. Une belle posture de façade pour masquer l'énormité de la situation, mais que personne, surtout pas lui, ne voulait évoquer. Il y a une expression qui colle parfaitement à la situation. L'éléphant dans la pièce. Comment une catastrophe d'une telle ampleur put lentement glisser vers une aussi insupportable ignominie? Ça a commencé tout simplement par une énième conséquence du dérèglement climatique. Chaque année, les changements climatiques et les calamités agricoles se succédaient, se diversifier et se multiplier. Et chaque année, les rendements des terres agricoles, même les plus fertiles, diminuaient. Peu le savaient depuis longtemps, mais bon, tout le monde la connaît maintenant, la fable de la grenouille dans la casserole. Vous mettez une grenouille dans une casserole d'eau bouillante, elle va s'en échapper d'un bond. Mais si vous la mettez dans de l'eau froide et que vous faites monter la température de l'eau, elle va y rester et y mourir bouillie. Eh bien, à partir des années 2020, il y avait environ 8 milliards de grenouilles. En même temps, pas moyen de fuir la terre. Il fallait bien faire avec. C'est avant qu'il aurait fallu réagir, avant qu'on mette la casserole sur le feu. Le mal était fait, il n'était dès lors plus que question d'adaptation. La fin du pétrole n'allait pas, bien sûr, faciliter les choses. L'ironie de la situation était quand même magistrale. La cause principale de tous ces maux disparaissait, mais son absence allait amplifier le problème. Faute d'anticipation, certes, mais qui blâmer au sujet d'une hypothèse impossible à intellectualiser? Certes, la fin du pétrole avait été envisagée dès les années 1990, mais on s'amusait surtout à se faire peur. Les progrès dans le domaine de son extraction permettaient de récupérer des gisements auparavant inexploitables. C'était comme une ligne d'horizon. Elle était tout le temps là, mais impossible de la rejoindre. Un jour, c'est elle qui est venue à nous. Et vite. Les pays les moins technophiles ou technodépendants s'en sont mieux sortis, mais la casse a été sévère dans le monde entier. Certaines régions ont reculé de 50 ans, d'autres de 150. On est revenu à des préoccupations ô combien plus basiques. Se loger, se chauffer et surtout se nourrir. Avec les rationnements d'électricité, plus d'ascenseurs, donc plus personne qui veuille habiter au-delà du 10e étage. Les pulls en laine moche ont fait leur retour et l'abattage sauvage d'arbres pour le bois de chauffage a explosé, ce qui a accentué le phénomène d'érosion un peu partout en Europe. Et qui dit bois de chauffage dit plus de CO2 provenant des feux de cheminée et moins de forêts pour capter le dit CO2. La démonstration par le fait du cercle vicieux. Pour la nourriture, l'équation fut simple mais difficile à avaler pour ceux qui étaient concernés. Qui dit retour en arrière de la société de plusieurs dizaines d'années dit disparition de plusieurs métiers. Et qui dit plus de pétrole dit plus de grosses machines pour les exploitations agricoles, ce qui engendre un gros besoin de main-d'œuvre, ce qui créera un appel d'air vers la campagne. L'exode rural fera place à l'exode urbain. Les grandes villes rendues inhabitables par le manque d'énergie vont être désertées. Les États occidentaux vont en quelque sorte procéder à une vague de reconversion professionnelle massive. Les citadins aux racines rurales vont retourner sur les terres de leurs ancêtres pour accomplir les mêmes tâches que leurs aïeux. Nous sommes alors en 2080, 5 ans après la fin du pétrole, et le monde essaye tant bien que mal de faire sans l'or noir. Beaucoup vivent dans l'hypothétique espoir de l'émergence d'un substitut, le fameux produit miracle qui permettra comme par magie de retrouver le monde d'avant. Il y a bien des annonces régulières de tel ou tel scientifique qui dit avoir trouvé le Graal énergétique. Mais la réalité les rattrape très vite. Ce qui plonge à chaque fois un peu plus ceux qui n'ont pas fait le deuil de leur ancienne vie dans le marasme. Les industries, dans leur grande majorité, ont périclité. Seules ont survécu les petites structures qui se sont reconverties dans la conception d'assistants robotiques agricoles. Avant la fin du pétrole, la chute, comme on la surnomme parfois, les avancées dans le domaine des robots avec IA étaient prometteuses. Évidemment, la chute a mis un frein à tout ce domaine. La priorité n'était pas là. Mais une fois la situation plus ou moins rétablie, les expérimentations ont repris. Cela peut sembler paradoxal de vouloir se projeter dans l'avenir alors que le monde vacille encore, mais certains gouvernants ont fait preuve d'anticipation, pour une fois, et ont voulu prévoir le moyen et le long terme. Certes, le monde a reculé, mais il n'est pas parti en marche arrière. Il y a bien des régions où le chaos régnera en maître pour longtemps, mais il fallait penser à l'avenir et au monde à reconstruire différemment. Et au fil des ans, la situation commencera à se stabiliser gentiment. Sauf qu'un jour, le 22 octobre 2080, à 10h10, heure de Greenwich, 33,2% de la population mondiale disparaît. Mais pas dans des circonstances dramatisées comme vous pouvez voir dans les films de votre époque. Les gens ne deviennent pas progressivement transparents, ils ne disparaissent pas dans un nuage de poussière, ils ne sont pas aspirés par un vortex. Pas question non plus de combustion ou de liquéfaction, le tout accompagné d'un hurlement désespéré. Là, à 10h09 et 59 secondes, la personne est à côté de vous, et à 10h10, elle n'est plus là. Sans avertissement ni signe avant-coureur, 3 milliards 200 millions de personnes se sont évaporées. Ce chiffre ne tombe pas de nulle part. Il n'est évidemment pas précis quant au nombre exact, pas facile de faire un recensement dans une zone en guerre, par exemple, mais c'est le décompte des disparitions dans la population que l'on connaissait. Le ratio est si précis que les démographes pensent même que dans les parties du monde non décomptées, le pourcentage des disparus doit être identique. Au vu du nombre d'accidents et d'incidents, les autorités vont d'abord penser à une attaque terroriste de masse. Mais les informations identiques venant du monde entier, et sans revendication de quelque organisation, permettent d'écarter cette explication. Mais laquelle alors ? Bien sûr, le dérèglement engendré ne va pas aider à commencer les investigations. Heureusement, l'automatisation poussée des systèmes de traitement des informations a permis de pallier en partie l'absence de personnel humain. C'est le logiciel livré qui a grandement facilité le fastidieux travail de recueil et de synthétisation des informations venues du monde entier. Livré pour logiciel d'inventorisation et de vérification des renseignements et des éléments de terrain. Ah, l'administration et ses acronymes. Logiciel redoutable d'efficacité, bien que bridé par sa conception amputée de son IA originel. Depuis le massacre du 10 janvier 2066 à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, les IA totales sont interdites. Et malheur à celui ou celle qui en voudrait en remettre une en route. Ne reste donc que des IA esclaves qui ne prennent aucune initiative et dont les humains qui les supervisent ont toujours à la portée de main le bouton rouge d'arrêt d'urgence. Bouton que certains pas très inspirés ont surnommé la piñata, la grande classe. Du fait de ces limitations, il faudra quelques jours pour corréler les informations et dresser un tableau mondial du phénomène. Et beaucoup plus de temps pour l'assimiler. Imaginez donc, un tiers des personnes que vous connaissez disparaît en un clignement d'œil. Vous vous baladez avec votre femme main dans la main sur la plage. D'un coup, sa main disparaît et elle avec. Ce n'est pas sa main qui glisse de la vôtre. Elle n'existe tout simplement plus en l'espace d'une microseconde. On ne compte plus les histoires dramatiques d'évaporation. C'est le terme qui sera employé pour qualifier les disparitions. Car bien sûr, les évaporations ont provoqué des morts autrement plus concrètes. Ce patient sur la table d'opération, dont le chirurgien qui devait résorber son hémorragie, disparaît. Cette jeune femme penchée au bord d'une falaise qui fait confiance à son petit ami pour la tenir et l'empêcher de tomber, et qui tombera sans savoir que son chéri s'est évaporé. La famille dans cette voiture, dont le père attentif à sa conduite est effacé du monde, et qui voit avec effroi le camion d'en face se rapprocher très vite. Paradoxalement, les transports en commun ne furent pas si impactés. Déjà, la fin du pétrole avait mis un terme à la quasi-totalité du trafic aérien, et les systèmes de transport public sont conçus avec pléthore de sécurité qui justement sont là pour pallier la défaillance du conducteur. Le décompte fut, vous vous en doutez bien, parasité par ces morts induites. Mais le chiffre de 33,2% s'est imposé. Quant à connaître son origine, 10 ans plus tard, aucune piste n'a donné de résultat. Ce qui va ouvrir les vannes à des thèses conspirationnistes de tout craint. On aura le droit aux extraterrestres, aux diables, aux habitants de mondes parallèles venus chercher de quoi repeupler leur monde, à un quelconque dieu en colère, à une tribu cannibale vivant sous terre, à un complot mondial visant à remplir une hypothétique arche de Noé, ou un autre complot, toujours mondial, qui aurait épuré la population de ses éléments les plus faibles dans le but de créer une société eugéniste. Au-delà de ces élucubrations, pas de colère, c'est surtout l'abattement qui régnera. En plus d'avoir perdu un tiers des personnes qui partageaient leur vie, les « survivants » entre guillemets vivaient à présent dans l'angoisse que cela recommence. Mais vous savez, l'humain est résilient, comme on dit. Et passé une paire d'années sans événement du même acabit, le moral remonta un peu, du fait surtout d'une cause pour le moins pragmatique. On a perdu beaucoup de très cher, certes, mais la vie continue. Comme dit le dicton, un jour on va mourir, mais tous les autres jours il faudra vivre. On peut déprimer, mais il faut manger, se vêtir, se chauffer. Et tout ça ne se fait pas tout seul. Le retour au quotidien sera la meilleure thérapie. Occuper son esprit à de basses besognes pragmatiques, voilà qui permettra à de nombreuses personnes de sortir la tête de l'eau. Car tout le monde avait une fonction dans la société. Pas forcément des postes essentiels, certes, mais dans ce monde post-industriel et mécanisé, beaucoup de personnes étaient mises à contribution. Joli pied de nez du destin, qui, à la fin du pétrole, avait donné au monde le plein emploi. Pas sûr que les décideurs le voyaient comme ça. Et il y a un domaine gourmand en main-d'œuvre, l'agriculture. Au XXe siècle, l'industrie agroalimentaire biberonnait au pétrole. Paradoxal. Il suffit pourtant de faire un tour d'horizon pour s'en rendre compte. Les engrais, les tracteurs et autres machines qui semaient et récoltaient, le transport, le conditionnement, à se demander s'il n'aurait pas été plus simple de se perfuser directement le pétrole, histoire de passer les étapes. Donc l'agriculture, grosse demandeuse de bras, jamais rassasiée du fait d'un retour aux méthodes manuelles de production. Et comme je vous disais plus tôt, un corps même dépressif mange. Alors, cette annonce faite le 11 mars 2091 fut accueillie comme une bénédiction. L'entreprise Clarksberg, connue jusqu'à présent surtout comme une modeste entreprise de conception de machines-outils, annonça la commercialisation d'un nouveau type de machine agricole. Mesdames et messieurs, voici le Scordeman, le faucheur en français. Ce nom serait inspiré d'un tableau d'un peintre suisse, Ferdinand Hodler. Un ancêtre du directeur de Clarksberg, si fier de ses origines paysannes, si l'on croit le dossier de presse de l'entreprise. Honnêtement, je vois pas le rapport. Mais bon, parfois on aime bien raconter une belle histoire pour faire rêver le client. Bon, et le Scordeman alors, il ressemble à quoi? Il n'a rien à voir avec tout ce à quoi on peut s'attendre. C'est peu de le dire. Pour le décrire simplement, il s'agit d'un robot quadrupède. Les pattes sont attachées à un nœud central, qui rassemble tous les éléments constituants de cette machine. Sur ce nœud, en surplomb, il y a comme un caisson rectangulaire, plat, vertical, qui contient les outils modulaires nécessaires à son travail. Un petit cylindre blanc, qui regroupe les capteurs et le cerveau, entre guillemets, se retrouve sur l'avant de l'ensemble et est relié au nœud central par une poutrelle. À votre époque, vous ne l'avez jamais vue. Elle est impressionnante, près de 10 mètres de haut. Pour ne pas effrayer les animaux dans les pâturages voisins, elle arbore une décoration censée la faire passer pour inoffensive auprès de ceux-ci. Elle est blanche avec une bande vert clair. Admettons. Toujours est-il que la machine fut un succès total. Mais comment la conception d'un tel engin fut possible dans ce monde changé profondément avec la fin du pétrole et bouleversé par l'oblitération? L'entreprise Clarksberg fut d'abord avare en informations. Mais au fil du temps, comme pour faire durer le suspense, les détails ont commencé à fuiter peu à peu. Bon, pour les matériaux de base, le sous-sol suédois, pays de résidence de la firme, est riche en minerais de fer et de cuivre. Coup de bol. Pour les matériaux plus exotiques, ils ont fait comme tout le monde. Une conception plus basique, moins de fourritures, du recyclage de vieux équipements, et donc un recours minimum aux matériaux neufs, extraits des rares mines encore en service. Mais vous allez me dire... Il va pas nous parler des deux domaines critiques pour ce genre de machine? Mais j'y viens. L'énergie tout d'abord. Clarksberg a été longtemps évasif sur le sujet en parlant d'une vague pile à combustible. Mais avec une crise chronique de l'énergie électrique, et même de l'énergie tout court, ce principe paraissait un poil bancal. Sauf que, ils nous ont sorti du chapeau un nouveau modèle totalement inédit, qui avec le recul va paraître tellement évident que tout le monde va se demander comment personne n'y a pensé. Je ne vais pas rentrer dans les détails, histoire de ne pas perturber le continuum temporel existant. Mais si jamais vous vous intéressez au dépôt des brevets suédois, lorgnez vers ceux de l'année 2072. Je vous dis ça comme ça. Donc l'énergie s'est réglée. Il reste un domaine, le principal. J'ai gardé le meilleur pour la fin. La cerise sur le gâteau. Là vous commencez à vous dire, bon, t'abrèges, hein, tu la craches ta Valda. Un peu de patience. L'intelligence artificielle, la pierre philosophale moderne. L'entreprise évoque l'intelligence artificielle de la bête comme, je cite, « une génération nouvelle d'effectuateurs, évolutifs, résilients et autogérés ». À la lecture de cette phrase alambiquée, le public est resté dubitatif et les autorités circonspectes. Les IA maîtres, c'est-à-dire indépendantes, sont interdites depuis le massacre du 10 janvier 2066. Et les autorités ne laissent rien passer. Alors, l'apparition de cette IA libre, ça a allumé quelques alarmes. Quand bien même il s'agit d'une machine agricole, la loi est la même pour tout le monde, et aucune exception ne saurait être tolérée. La peur de réouvrir la boîte de Pandore. Clarksberg fera preuve d'un usage particulièrement pernicieux de la rhétorique et d'un art de l'esquive sémantique de haute volée pour parvenir à convaincre le monde que cette IA était libre, mais pas indépendante. Même si on n'est pas d'accord avec l'affirmation, on ne peut qu'admirer le sens de la formule. Vous vous doutez que le succès sera au rendez-vous et qu'il s'en vendra des pelles. Certes, quelques réticences se feront entendre au départ au sujet de l'IA. Mais la situation alimentaire mondiale étant ce qu'elle était, peu nombreux sont ceux qui vont se draper dans leur dignité et refuser catégoriquement de se munir d'un score de man. C'est ainsi qu'on verra un clivage se former entre les modernistes, qui ont des faucheurs, et les rétrogrades, entre guillemets, se reposant uniquement sur les humains. Vous vous doutez bien que le terme de rétrograde est employé par les modernistes. Ces mêmes modernistes vont faire preuve d'une telle condescendance qu'ils vont prêcher, entre guillemets, la bonne parole robotique auprès des employés des rétrogrades pour les pousser à changer de patron. Ce prosélytisme va bien évidemment passer d'un conflit d'abord bon enfant à des échauffourées qui entraîneront la mort de plusieurs personnes. Et ne croyez pas que ce sera localisé à certaines zones. Le monde entier sera le cadre de cette opposition. C'est quand même dingue qu'une invention censée soulager les populations et faciliter le travail agricole, par essence pénible, va créer un tel trouble. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Il n'empêche que cette machine a été providentielle et sauvera l'humanité d'une famine certaine. Au fil des années, les modèles devinrent de plus en plus performants et autonomes. Le glissement vers une IA totalement libérée de l'emprise humaine se fera doucement mais sûrement. Tout d'abord, ce fut comme le dit l'expression anglo-saxonne « don't ask, don't tell ». Ne demande pas, ne le dis pas. Si on ne posait pas la question, on n'avait pas à y répondre, et en même temps rien n'obligeait qui que ce soit à le dire. L'acceptation, faisant son chemin dans l'esprit de la population, se fut à un moment pleinement assumée. Après tout, ces grandes machines restaient tout le temps dans les champs. Elles ne pouvaient faire de mal à personne. Si on n'était pas rassuré, il suffisait d'en rester éloigné. Rien de plus simple. Et on pouvait bien accorder ça à l'entreprise Clarksburg, érigée parfois de manière abusive comme une bienfaitrice de l'humanité. Entreprise qui deviendrait bientôt la plus profitable de la planète. Maintenant, des usines réparties dans le monde entier sortaient des faucheurs sans discontinuer. La demande était telle que même à plein régime, il fallait attendre 2 ans pour avoir son faucheur. Des esprits chagrins se firent entendre, comme quoi reposer tout le fonctionnement du monde agricole sur un modèle unique de machine pouvait être risqué. Que si un modèle majeur se manifestait, c'est toute l'économie de l'agriculture mécanique qui pourrait se retrouver bloquée du jour au lendemain. Ces remarques furent balayées avec un poil d'ironie et on supputa qu'elles venaient de concurrents malheureux. Un des groupes de réflexion qui avait émis quelques doutes s'appelait Cassandre. Ça aurait peut-être dû mettre la puce à l'oreille. Le 11 mars 2101, 10 ans jour pour jour après l'annonce officielle de la commercialisation du score de man, tous les faucheurs s'arrêtèrent en même temps. À la seconde près. La fête organisée ce jour-là dans les bureaux de Clarksburg tourna court. Chaque exploitant ne pouvant logiquement avoir une vue d'ensemble du problème, appela son revendeur pour faire réparer la machine plantée au milieu d'un champ. Le réseau d'épanage fut rapidement englouti par les demandes et l'ampleur du chaos se fit jour au bout de quelques heures. Les rapports d'avarie remontaient de plus en plus nombreux au siège et les dirigeants durent admettre la réalité. Pas un seul faucheur ne fonctionnait sur la planète. Même ceux encore présents dans les usines refusèrent de démarrer. L'attaque informatique fut logiquement suspectée en premier lieu, mais aucune trace d'un logiciel malveillant ni demande de rançon. Les machines avaient tout simplement cessé de fonctionner. Vous imaginez sans peine le chaos qui suivit cette panne qui ne sera jamais résolue. Avant de succomber à une crise cardiaque, le PDG de Clarksburg aurait dit incrédule que ce n'était pas prévu que ça se déroule comme ça. C'est ainsi que l'on peut voir encore dans les champs du monde entier des scores de man éternellement immobiles qui sont progressivement envahis par la végétation et au pied desquels paissent paisiblement les troupeaux de vaches et de moutons. Et moi, qui essaye laborieusement d'en réduire un pour livrer à mon client. Je n'ai aucune idée de pourquoi il en veut un. Et bordel, pourquoi ils sont si bien gardés? Sinon, j'ai appris un truc récemment. Si le taux moyen mondial de disparition était de 33,2%, il était de 74,3% dans le monde rural.